pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est Les Régors, chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Et aujourd'hui, on va parler INSEE. Voilà. Donc, et pour ce faire, on a Bruno, Sylvain et Olivier avec nous en plateau. Hein, je ne dis pas de bêtises.
Non, c'est Antoine.
Antoine, ok.
Moi, c'est bien Olivier.
Ok, assieds-toi. On va commencer par tout simplement essayer d'abord de comprendre qu'est-ce que c'est que l'INSEE, puisque souvent on fait la différence entre les instituts de sondage, l'INSEE. C'est quoi la différence? Mais pour le moment, on va essayer d'expliquer ce que c'est que l'INSEE, de qui vous dépendez, est-ce que vous êtes indépendant, comment vous travaillez, etc. Tu commences?
Oui, je veux bien. Donc l'INSEE, alors c'est l'Institut national de la statistique et des études économiques. Donc c'est une direction du ministère de l'économie, comme il y a la direction des impôts, la direction du trésor, etc. Et donc on est environ 5000. Il y a environ 5000 agents de la statistique publique.
Fonctionnaires.
Donc, fonctionnaires pour la plupart. Alors on a quelques contractuels
aussi.
Qu'il y a depuis quelques années, il y a de plus en plus de contractuels.
Oui,
aussi.
Comme dans tous les services d'ailleurs de l'État.
Exactement.
Tout à fait.
Et donc du coup, on est environ 5000, 1000 à Paris et 4000 à peu près en région. Et donc on a un statut de fonctionnaires pour la plupart d'entre nous. Donc ça nous donne quand même... Enfin, pour nous, c'est grâce à notre statut qu'on a une certaine indépendance et qu'on est capable de faire des travaux qui garantissent une certaine qualité. Et on n'est pas... Même si on appartient au ministère de l'économie, en fait, on n'est pas aux ordres du gouvernement et on a quand même une capacité à faire, à faire des études... avoir une méthodologie qui est contrôlée, etc. Donc on peut pas il peut pas y avoir par exemple d'intervention directe
vous allez faire comme ci ou vous allez faire comme ça,
Il peut pas, par exemple le chiffre du chômage, le chiffre du PIB, etc., il peut pas être changé comme ça sur intervention du gouvernement. Ça serait pas possible parce que ça pourrait pas passer, et évidemment ça serait immédiatement dénoncé par les agents et puis par les syndicats qui les représentent. Donc on appartient tous les trois, on est du syndicat Sud-INSEE à la direction générale de l'INSEE.
D'accord. Alors tu me disais aussi, parce que je ne savais pas du tout, moi je pensais que c'était très centralisé, hein, et alors qu'en fait il y a une vingtaine d'établissements sur l'ensemble de la France, une région, hein, c'est ça?
Oui.
Par exemple, quelle est peut-être la différence entre quand vous bossez, quand par exemple l'État vous dit qu'il faut bosser sur tel ou tel sujet, comment vous faites? Comment ça se passe? Parce que c'est toujours, on se pose toujours la question de combien de personnes sont interrogées, sur quelle base s'appuie l'enquête, le dossier. Donc peut-être nous donner un petit peu des indications sur comment vous bossez, quoi.
Mmh. Là, ça dépend vraiment beaucoup des services, puisqu'il y a des services où en effet, il y a des agents qui travaillent sur des grandes enquêtes. Mmh. Donc des grandes enquêtes où... les ménages sont interrogés, par exemple l'enquête logement, l'enquête sur les conditions de vie des ménages, l'enquête patrimoine. Enfin, il y a tout un tas d'enquêtes. Donc là, voilà, c'est pas du coup, c'est
le recensement voilà. Évidemment, voilà. Ça c'est le gros truc de l'INSEE, ouais, carrément.
Voilà, donc on a toute une série d'enquêtes en fait où bah, du coup, c'est pas le gouvernement directement là qui donne des consignes sur sur comment le travail doit être effectué. Et après, sur le grand programme, enfin sur les grandes orientations, le grand programme de travail de l'INSEE, c'est discuté notamment au sein du CNIS, le Conseil national de l'information statistique, en fait, où c'est un lieu en fait, où il y a bah, du coup, des représentants de la direction de l'INSEE, mais il y a aussi des représentants de la société civile, entre guillemets. Donc, il y a des représentants syndicaux, des représentants patronaux, etc., qui, où ils ont un échange, en fait, où ils peuvent, enfin, les différentes, ceux qui siègent, en fait, au CNIS, peuvent faire des propositions, peuvent commenter aussi ce qu'a l'intention de faire l'INSEE. Et puis, et du coup, l'INSEE bah, rend compte aussi de son programme de travail au sein de ce type d'instance.
D'accord. Donc, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de statistiques. Vous intervenez quand vous voulez hein, pour préciser ce qu'est en train de nous dire Sylvain. On est abreuvé de sondages. Aujourd'hui, c'est presque l'opinion publique se fait à travers les sondages et la plupart des grandes institutions, l'IFOP, l'Ipsos, BVA, CSA, justement, c'est pas du tout la même chose.
La peine de parler de ça, c'est totalement orthogonal. Ça n'a strictement rien à voir. Donc c'est une confusion qui est très répandue, assez largement répandue dans l'opinion. L'INSEE n'a rien à voir avec les instituts de sondage, rien.
Ouais. Voilà. Ok.
Stop, rideau.
Ouais. Non, mais c'était important de le signaler parce qu'on sait que toutes ces instituts de sondage.
Ce qui ne veut pas dire que l'INSEE ne fait pas de sondage. L'INSEE procède par sondage pour certaines enquêtes. Mais ça n'a rien à voir avec les sondages d'opinion au sens où on l'entend dans les médias.
Carrément, voilà. Mais c'est pour ça que j'avais envie qu'on en parle pour faire justement la bonne. Non, pas tout à fait rideau parce que, en fait, ce qui est intéressant dans la différence qu'il y a entre l'INSEE et tous ces instituts de sondage que je viens de citer, c'est qu'ils sont la plupart du temps dans les mains de Pinot, du MEDEF, de privés qui vont orienter.
D'accord, mais enfin, encore une fois, ça n'a rien à voir. On ne peut pas comparer.
Justement,
voilà.
Mais donc, oui, tout à fait. C'est pour ça que je voulais le dire. Ouais, voilà, c'est exactement pour ça que je voulais le dire et pointer justement la différence et l'importance que l'INSEE peut avoir par rapport à ces autres instituts qui ne sont pas du tout ou beaucoup moins indépendants et qui dépendent justement de privés, de commandes, souvent du patronat ou de... ou voilà, je vais tout à fait dans ton sens.
D'accord.
Voilà, c'était en fait, je voulais aussi pour être précis.
Préciser une chose, c'est que bon, c'est clair qu'il y a des instances qui garantissent l'indépendance ou qui sont censés garantir l'indépendance d'un institut comme l'INSEE. Mais bon, c'est quand même un institut qui dépend de Bercy, qui dépend du gouvernement. Et voilà, c'est quand même un état de fait. Il y a quand même eu déjà par le passé, j'ai plus d'exemples précis en tête, mais des épisodes qui ont donné lieu à des situations un peu tendues.
Tu veux dire
la dernière fois d'un dénommé Griveaux au sein de la Macronie qui s'était permis de faire des commentaires sur certains travaux de l'INSEE en se donnant des airs de professeur d'économie en matière d'élasticité de je ne sais plus quoi. C'était peu avant le confinement, ça je m'en souviens très bien. Donc il peut quand même y avoir des pressions qui sont exercées, il ne faut pas rêver.
Oui, bien sûr. Non, mais c'était bien aussi, mais tranquille, on a tout à fait le temps.
Parce que, et on peut... considère vraiment que c'est les agents qui défendent l'INSEE plus que la direction de l'INSEE, parce que la direction de l'INSEE, elle est quand même nommée en Conseil des ministres. C'est-à-dire le DG de l'INSEE, il est nommé en Conseil des ministres, donc
voilà.
De fait, lui, il reçoit forcément des
directives,
des pressions. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de politiques. Tu mentionnais Griveaux, mais Sarkozy aussi, en son temps, a attaqué l'INSEE. Enfin, c'est vrai que souvent, l'INSEE est attaqué en disant l'INSEE ne devrait pas faire ceci, ne devrait pas faire cela, etc. Donc, c'est une forme de pression quand même qui s'exerce. Et donc, nous, on est vigilants sur le fait que... quand, par exemple, le directeur général de l'INSEE ne répond pas à certaines pressions, on le dit. On dit c'est son rôle. Par exemple, sur une note de conjoncture, il y a quelques années, etc., il y avait des commentaires... elle avait été attaquée pour de mauvaises raisons par le gouvernement, bah, nous, on a poussé pour que le DG défende le travail qui a été fait, parce que, selon nous, il répondait à une déontologie, etc. Et donc, il faut être capable de riposter aux attaques. Et ça, évidemment, nous, de notre point de vue, la direction de l'INSEE ne le fait pas suffisamment. Et au contraire, peut avoir tendance à relayer ses pressions au sein de l'Institut.
Oui, ça peut se faire de façon un peu... C'est jamais totalement frontal. Hein. Ce sont des situations qui donnent... Enfin, c'est parfois un peu insidieux, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Hein. De même qu'on pourrait aussi s'interroger, en dépit de l'existence du CNIS, sur le fait qu'on lance des enquêtes dans tel domaine et pas dans d'autres.
Oui, bien sûr.
Il y a des fois des choses un peu, par exemple, là on a une enquête SDF et sans-abri, c'est très bien, là, qui est en cours, ou je ne sais plus trop où ça en est, en tout cas c'est cette année. Mais par exemple, j'ai cité un exemple, on n'a jamais fait d'enquête sur le nombre de logements vides dans ce pays.
Ouais.
Alors il y en a quand même plus de 3 millions, a priori, mais ce n'est pas une source INSEE. Il faudrait peut-être pouvoir affiner ça. Voilà, c'est un exemple.
Non, bien sûr. Disons qu'on faisait juste un petit peu la différence entre les instituts privés et publics. Maintenant, tout n'est pas rose, on est bien au courant dans tout ce qui. Elles sont les institutions du gouvernement. Tout à fait. Alors, nous, on avait eu déjà, à l'actualité des luttes, l'envie de vous inviter suite à la réforme des retraites. Puisque déjà, à l'époque, vu que vous étiez très mobilisés, en plus, ça dépassait le cadre de la retraite. Justement, vous parliez un petit peu aussi
de votre boulot. On avait fait 2-4 pages à l'époque. On avait sorti 2-4 pages en... Alors, j'allais dire plagier, c'est pas le terme, en utilisant vaguement le mode de mise en page, de maquettage de certaines publications de l'INSEE, je ne sais plus laquelle.
L'INSEE première.
On était d'ailleurs sous très haute surveillance, je m'en souviens très bien. Ils avaient bien fourré leur nez là-dedans. Il ne s'agissait surtout pas de... voilà. Ça ressemblait, mais il y avait bien marqué « Comité de mobilisation contre la réforme des retraites ». Il ne s'agissait pas de se faire passer pour l'INSEE. On parlait des agents de l'INSEE contre la réforme des retraites, point barre. Et à partir de là où on fait, à partir du moment où on fait ça tout le long du texte, les choses sont claires, ils peuvent rien dire. Voilà, c'est tout.
Et on vous avait quand même un petit peu.
Au début, oui, je me souviens très bien là, du côté de comment c'était avant Yael, le DIRCAM. Enfin, on va pas le nommer, c'est
non,
pas la peine, en fait. C'est pas la peine. Okay.
Mais en effet, parce qu'on a fait ça à la fois lors de la réforme. Le projet de réforme de 2019, le premier, la retraite par points, et puis on a refait ces publications en 2023. Et à chaque fois, en fait, on a essayé de nous intimider en disant qu'on ne respectait pas notre obligation de réserve. Alors qu'en fait...
C'était tout simplement la liberté d'expression.
Exactement, puisqu'on ne se présentait pas, on ne disait pas que c'était une publication de l'INSEE, mais on disait très clairement que c'est une publication du comité de mobilisation. Mais c'est vrai que l'idée, c'était de faire des publications qui n'étaient pas... avec un vocabulaire militant, c'était de faire des publications avec des chiffres de l'INSEE, mais qui nous semblaient éclairés et appuyés.
Mais carrément. Et en plus, je me souviens que vos publications, nous, on s'en était servi à la radio, parce que ça permettait aussi concrètement de donner des bases un peu plus précises et des analyses, étayer des analyses sur des faits concrets. Donc ce travail-là, il avait servi aussi aux militants qui se mobilisaient contre la réforme des retraites.
Ça permettait d'éclairer les choses sous un autre éclairage que celui de M. Le Maire, puisqu'à l'époque, c'était donc lui. Parce que dès que ces ministres de l'économie se donnent des grands airs d'économistes, bien entendu, on peut tout à fait voir les choses sous un autre angle que le leur. C'est inutile de le dire, y compris quand on est économiste, bien entendu.
Bien sûr, il y a différentes familles d'économistes, on le sait, libéraux, marxistes, etc. Et selon de là où on se place, on n'a pas tout à fait les mêmes interprétations de la réalité. Voilà.
Bizarrement.
Non, pas bizarrement, tout à fait. Logiquement. Et du coup, peut-être on va faire une mini-pause musicale et après on va parler un petit peu de justement ce nouveau management qui n'est pas très nouveau, puisqu'il a quand même déjà quelques années. Ce nouveau management qui règne assez brutal à l'intérieur de l'INSEE depuis quelques années.
En venir un peu au fait.
Ah non, mais c'était important. Ça, en fait. C'était très important de présenter aussi l'INSEE pour les auditeurs.
Bien sûr. Oui.
Sois pourri, tais-toi, toi la petite caissière, aimée à ton salaire, en pauvre chez Leclerc. Oui, sois pourri, tais-toi, toi le petit fonctionnaire, tu devrais avoir honte de nos coups. de sapeur-pompier. Tu sais sauver des vies, ça rapporte pas d'oubli. Oui, sois pourri, tais-toi, toi le petit cheminot. Tu sais les privilèges, c'est pas pour les prolos. Et si t'es pas content, comme dit le président, oui, si t'es pas content, t'as qu'à foutre le camp. Tous les jours on galère, oui, dans le RER, serré comme du bétail, on se rend au travail pendant que Nicolas fait son footing au bois. On se pèle sur les quais en attendant le tramway. Tous les jours on galère, tous les jours on galère. Tais-toi, toi la petite infirmière, on te les paiera jamais, tes heures supplémentaires. Oui, sois pauvre et tais-toi, toi la petite Kaira, fume ta marijuana et surtout bouge de là. Et si t'es pas content, comme dit le président, oui, si t'es pas content, t'as qu'à foutre le camp. Tous les jours on galère, oui, dans le RER, serré comme du bétail, on se rend au travail pendant que Nicolas fait son footing au bois. On se pèle sur les quais en attendant le tramway. Tous les jours on galère, oui, dans le RER, serré comme du bétail, on se rend au travail pendant que Nicolas fait son footing au bois. On se pèle sur les quais en attendant le tramway. Tous les jours on galère,
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 tous les jours on galère.
Voilà, ben on continue donc avec Bruno, Sylvain et Olivier de l'INSEE pour parler de l'INSEE, de ce qui s'y passe en ce moment, et notamment d'un managérial particulièrement brutal qui s'exerce plus précisément depuis la réforme des retraites. Alors, j'ai envie de dire que de toute manière, c'est quelque chose d'assez général. On l'a vu chez EDF, on l'a vu dans plein de boîtes où il y a eu pas mal de mobilisations, où là, il y a eu une reprise en main de la part du gouvernement qui a attaqué des têtes syndicales un peu dans tous ces secteurs et dans l'INSEE aussi. Donc, allons-y, parlons un petit peu quelle forme prend ce management, comment ça se passe. Et on va le dire d'une manière générale et après plus précisément sur Paris, puisque vous êtes sur la région parisienne.
Mmh. Oui, depuis 2-3 ans, en effet, nous, on dénonce une dérive. Les syndicats nationaux de l'INSEE aussi le font. Enfin, il y a un consensus syndical sur le fait qu'il y a vraiment une dérive du management. Mmh, mmh. Donc ça se voit à plusieurs niveaux. Donc on voit que donc c'est sous l'impulsion aussi. Bon, c'est forcément incarné par des personnes, mais on a une nouvelle secrétaire générale qui incarne en fait ce nouveau management et qui impulse toute une série de choses et qui diffuse aussi des consignes à des échelons plus intermédiaires du management.
Avec beaucoup de zèle.
Avec beaucoup de zèle. Et qui d'ailleurs remplace des managers intermédiaires qui ne sont pas suffisamment adaptés aux nouvelles consignes.
Non, il a commencé par faire le ménage en arrivant, pour parler concrètement. Quoi.
Exactement, voilà, il y a eu le ménage. Et notamment, ce qu'on dénonce aussi par exemple à Toulouse, puisqu'il y a eu une mobilisation importante des agents de Toulouse, qui ont dénoncé le fait qu'un chef de service avait été débarqué du jour au lendemain sous prétexte qu'il avait relayé un certain nombre de préoccupations dans un document, le DUERP, c'est un document où on liste une série de risques professionnels, enfin de choses qui ne vont pas, etc. Et donc ce chef avait de façon assez consciencieuse en fait recueilli un certain nombre de problèmes qu'il y avait, et ça lui a été reproché, et il a été jeté du jour au lendemain.
Il a fait son taf, quoi.
Voilà, il a fait son taf, et sur le plan professionnel, il était exemplaire. Il n'y avait rien à lui reprocher, et d'ailleurs, la direction, en fait, a revendiqué le fait qu'il y avait un problème de loyauté. C'est comme ça qu'ils ont formulé les choses, donc il n'était pas suffisamment loyal par rapport à la direction, donc voilà, il a été dégagé.
Mais quand tu dis dégagé, ça veut dire quoi? Viré
Pas viré, donc du coup, il est évidemment, ouais.
Mais oui, c'est pour ça que je te pose la question.
De son poste.
Muté.
On l'a muté, on l'a voilà, viré de son
muté
poste.
Muté de son poste.
Voilà. Ok, d'accord.
Voilà, parce que c'était un poste de direction, donc du coup,
et donc, évidemment,
il est nommé en comité de direction de l'INSEE, et du coup, le comité de direction l'a renvoyé de son poste.
Alors après, c'est une question de sémantique, hein. Il faut décrypter, bien entendu, tout le monde avait compris, quand on dit pas assez loyal, ça veut dire pas assez docile, quoi.
Bien sûr.
En bon français, on va dire.
Carrément, voilà. Carrément. Mais c'est marrant parce que, comme ça, vite fait, ce que vous êtes en train de dire, on va rentrer encore plus dans les détails. Hein. Ça fait vraiment penser, toujours à France Télécom ou à toutes les boîtes publiques qui, au moment de se restructurer, dégagent, serrent, visent, placardisent, etc. Leurs fonctionnaires, leurs employés, pour pouvoir modifier, voire fermer, enfin, une boîte, quoi. On a l'impression qu'on est un peu sur ce créneau-là, quoi.
Donc, surtout qu'à l'INSEE, on avait quand même une tradition assez libérale, entre guillemets, c'est-à-dire que...
au sens sociétal du terme.
Voilà, au sens sociétal
pas
du
pas
terme.
Économique.
Et on avait beaucoup... Bah, voilà, c'est pour ça que le changement est assez brutal. Par exemple, au niveau des libertés syndicales, on pouvait faire tout un tas de choses. Organiser toutes les HMI, les assemblées générales qu'on voulait faire.
Alors
HMI, c'est heure mensuelle d'information, c'est le terme technique pour en gros les réunions avec les agents, etc. Et donc du coup, là depuis un certain temps, en effet, bon, il y a le cas d'Olivier dont on parlera après, mais il y a par exemple à Strasbourg, on a aussi un militant de Sud, qui est par ailleurs élu dans les instances de l'INSEE, qui est suspendu pour des raisons aussi de... Bah, il conteste.
Alors, il ne sait même pas pourquoi. C'est-à-dire qu'il est suspendu depuis 3 mois et en fait, il ne sait toujours pas pourquoi. C'est ça qui est... Alors là, c'est carrément lunaire dans son cas. C'est totalement lunaire. C'est comme ça. Voilà. Alors, il faudrait... signaler quand même une chose, c'est qu'au plan statistique, si je puis m'exprimer ainsi...
Vas-y, c'est ton domaine.
il se trouve que les deux procédures disciplinaires en cours actuellement, donc la sienne à Strasbourg et la mienne pour ma pomme, eh ben, comme de juste, le hasard fait que ce sont deux militants de Sud-INSEE. Voilà, c'est comme ça, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Voilà, c'est encore une curiosité. Voilà, c'est comme ça. Quoi. Bon.
Oui, parce que la suspension, en fait, c'est une mesure conservatoire. C'est pas... une sanction. Donc en fait, la direction de l'INSEE peut prendre une suspension d'une durée normalement maximale de 4 mois. Mmh. Et en fait, ils ne sont même pas obligés de motiver. Ils peuvent le faire, mais ils peuvent ne pas le faire hein. Sous prétexte que ce n'est pas une sanction. La sanction, elle peut être prise ensuite que après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire. Mmh. Et ensuite, ils peuvent prendre une sanction. Alors mais là officiellement, c'est une mesure conservatoire.
Ah, il est bien.
Il s'agit de procédures et suspensions qui concernent normalement les personnes qui représentent un danger immédiat pour leurs collègues et l'entourage.
Carrément.
Donc, si par exemple, j'invente une situation vraiment absurde, mais si je viens armé au travail, il faut absolument me sortir de là tout de suite.
Bah, évidemment.
Et administrativement, c'est ça qui se passe. Et ces procédures-là sont pensées pour des cas, alors pas forcément aussi caricaturaux, mais pour ce genre de cas-là. C'est-à-dire quand il y a vraiment une menace immédiate pour les collègues, les lieux, enfin pour le lieu de travail.
Alors là, quand on
dans le même ordre de choses, quand on parle de loyauté, si je ne dis pas de bêtises, ça fait partie des obligations du fonctionnaire. Donc comme on n'a pas de contrat de travail au sens d'un contrat d'un salarié dans le domaine privé, on a certaines obligations, dont la loyauté, et dedans, il y a de ne pas, pas contredire ouvertement sa hiérarchie. Ce qui n'est pas absurde non plus, mais là où je veux en venir, c'est qu'on peut avoir l'impression que des procédures normales prévues peuvent être utilisées de façon un peu excessive dernièrement par les responsables.
Ouais.
C'est ce qu'on peut se dire.
Bah ouais, quand même.
Oui, alors en fait, là, pour ce qui concerne mon cas, on y reviendra plus en détail après.
Ouais.
Je me suis vu lourdé pendant 4 mois au titre de suspension. Donc, ce qu'ils appellent, ils disent bien sûr que ce n'est pas une sanction, parce qu'au plan administratif, ce n'est pas
noir sur blanc une sanction, mais on voit bien que quand vous vous faites lourder 4 mois, vous restez chez vous et que... Enfin bref, on voit bien que c'est déjà une sanction, il faut être clair. Hein. C'est déjà une façon de vous casser les pieds, de vous dire de ne pas y retourner, de ne pas recommencer, de partir à la retraite dans mon cas. Hein. Le message était très clair, j'y reviendrai plus tard. En fait, les motifs invoqués sont totalement grotesques, hein, il faut le dire, par rapport à la durée de la suspension elle-même déjà. Et quand on voit par la suite ce sur quoi ça débouche à l'issue de la CAP, la commission administrative paritaire, c'est tellement une farce ce truc-là que je me souviens même plus ce que ça veut dire, qu'en fait on voit bien que l'idée, c'est, je vais faire un parallèle. L'idée, c'est en fait ce qu'ils nous racontent à la place Beauvau pour interdire les manifs. C'est-à-dire, c'est le risque de trouble à l'ordre public. Voilà, c'est exactement ça en fait. C'est le fantasme, le truc, le chiffon rouge qui est agité pour prétexter de mettre au frigo 4 mois au titre de la suspension quelqu'un, alors que ça n'a, enfin, je veux dire, il n'y a rien qui le justifie, quoi.
Ouais, voilà. Ça fait c'est penser ça, un peu fait, hein. À voilà, retirer la brebis galeuse du troupeau, quoi. Celle qui perturbe, contaminer, celle, ça fait un peu penser à ça.
Oui, non, mais ouais, l'INSEE, il ne faudrait surtout pas qu'il y ait trop de moutons noirs, parce que ça finirait par faire désordre, évidemment.
Évidemment.
Et surtout, on a une direction de l'INSEE qui n'hésite pas à passer outre l'avis des CAP. Parce que là, on a le cas, par exemple, d'une collègue syndiquée aussi, à Lyon, enfin qui était syndiquée et qui a été exclue, enfin qui a eu une mesure d'exclusion, alors que la CAP, enfin tous les élus de la CAP s'étaient prononcés contre. Donc la secrétaire générale n'hésite pas à passer outre la décision de la CAP, parce qu'elle a le droit. Formellement, la CAP c'est un avis.
Mais consultatif.
Bon. Et donc, ce qu'on craint aussi, c'est qu'avec Olivier, il passe outre l'avis, parce que pour Olivier aussi, tous les élus syndicaux se sont opposés à toutes les sanctions proposées par la secrétaire générale, mais on sait qu'ils sont dans un état d'esprit de passer outre, parce qu'ils veulent vraiment briser des militants syndicaux pour faire peur aussi. Ah, parce que nous, ce qu'il y a derrière, c'est qu'ils veulent faire peur. C'est et pareil sur la question, sur la répression en général, nous, ce qui nous a... choqué, qui est une rupture avec toutes les traditions à l'INSEE, c'est qu'ils ont interdit purement et simplement deux HMI, là, deux réunions avec les agences sur la Palestine.
Je voulais y venir, voilà. Carrément. C'est-à-dire que là, on sent qu'il y a quand même une volonté de bâillonner l'expression syndicale, hein, ou l'expression politique divergente ou contestataire. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a quand même encore quelques dizaines d'années, les syndicalistes étaient relativement protégés, on va dire. Alors que là, on se rend compte depuis... J'ai envie de dire, moi j'ai l'impression que ça s'est renforcé au moment des retraites. Oui, là, il y a vraiment une envie de détêter les syndicats, de les remettre au pas et de dire maintenant vous calmez parce que sans ça, on va vous dégager.
Oui, alors ça fait partie en fait des différents types de retournements auxquels on observe par les temps qui courent, hein, ouais. Notamment avec les histoires de ce qui se passe au Proche-Orient. Hein. Je vais juste faire une parenthèse un peu à côté, mais en 36, quand sous le Front populaire, on crée l'outil dissolution. Hein, c'était pour dissoudre des ligues fascistes armées qui paradaient fringués comme des SA. Hein, et puis au jour d'aujourd'hui, des gens comme Darmanin, Retailleau, ils utilisent l'outil qui s'appelle toujours dissolution, sauf qu'entre-temps, on a mis plein de trucs dedans. Pour dissoudre qui ? Pour dissoudre des groupes antifascistes.
Ouais,
voilà. Carrément. Donc c'est pour ça que je parle de retournement, en fait. Effectivement, le cas des syndiqués, des syndicaux, des syndicalistes en constitue aussi un. Hein. L'histoire de ces tensions avec le mot Palestine, est, en ce qui concerne l'Institut, cet Institut est devenu vraiment patent, je veux dire. Hein. Il faut savoir que dans cet Institut, on n'avait jamais interdit une HMI. On n'avait jamais vu ça. C'est totalement inédit. Il faut savoir que, en plus, il y a des mensonges caractérisés là-dessus. Hein. Concernant donc la secrétaire générale, malheureusement, on peut en noter trois, et c'est purement factuel. Hein. D'abord, quand elle dit qu'elle a le droit d'interdire des HMI, c'est faux. C'est tout simplement faux. Ce ne sont pas, ça n'est pas dans leurs prérogatives. Voilà, c'est tout simplement faux. Ensuite, en 2024, il y a eu des très longs échanges où le national de Sud-INSEE a fourni tous les articles de règlement, etc. Enfin bon, je ne suis pas très bon là-dedans. J'ai encore archivé ces échanges hier, je les ai mis en forme. Hein, donc c'est absolument accablant. C'est-à-dire que quand on leur met ça sous le nez, ils ne répondent pas, ils se contentent de dire « Ben non, nous, en tant qu'autorité administrative, ben on vous interdit parce qu'on considère que ça n'a rien à voir avec la choucroute, hein, pour faire court. Hein, ça n'a rien à voir avec le syndicalisme et avec... enfin, et alors là, c'est très intéressant pour le coup. Et là, j'insiste sur cette parenthèse-là, c'est que ce qui est poussé en avant, ce qui est vraiment tenté par une direction comme celle de l'Institut, c'est de tenter justement de nous cantonner à un syndicalisme, pour ainsi dire, ce qu'on appelle un syndicalisme corpo. Mmh. Voilà. Hein, quand on voit le message de la secrétaire générale, c'est écrit noir sur blanc d'une seule phrase, et c'est lapidaire d'une seule phrase. Elle ne justifie pas rien du tout, elle ne donne aucun règlement comme quoi elle peut le faire, mais en plus de ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur le fond, non seulement c'est fallacieux, mais en plus c'est tout sauf anodin. D'accord. Hein, alors que tout le monde sait que des syndicats comme la CGT ou tous les syndicats de l'Union solidaire, hein, ben ils sont impliqués sur des tas de choses à l'international. Il y a une notion d'internationalisme, hein, et non pas de corpo, voilà. Hein, et que la Palestine en fait évidemment partie. Je précise, je rappelle aussi que les deux Hachimi Palestine qu'on avait voulu faire, et là, là aussi, on leur a mis ça sous le nez, mais il n'y a rien à faire. Hein. C'est parti d'appels de syndicats palestiniens. Okay. BDS, même avant le 7 octobre, c'était déjà ça. Le Stop Arming Israël, c'est aussi ça. C'est tout part de syndicats palestiniens. Et après, vous avez une secrétaire générale de l'INSEE qui vient nous raconter que non, on vous interdit. Ils ne disent pas ça comme ça. Ils ne disent jamais interdire. Ils disent que ce n'est pas possible. Vous voyez, hein, le truc. Hein. Parce que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe à l'INSEE, grosso modo. Quoi. Voilà. C'est comme ça. C'est devenu comme ça maintenant.
Ouais,
voilà.
Alors que voilà. Vous êtes quand même maître du programme de vos heures d'information syndicale.
Sur le fond,
c'est vous qui choisissez
d'ailleurs
votre
première,
thème. Quoi.
Le contenu, HMI, ils n'ont pas le droit de se prononcer sur le contenu. C'est très simple. Hein, c'est marqué en toutes lettres dans les articles en question. Hein. Ouais. Hein, et en plus de ça, il faut savoir que toujours cette même personne, la secrétaire générale, quand elle a affaire à un journaliste, je ne vais pas dire de quel journal... Alors là, pour le coup, elle est carrément gonflée à l'hélium, hein, puisqu'elle est capable de mentir carrément en disant « Non, non, je n'ai pas interdit le HMI ». Alors que moi, j'ai encore recherché les échanges hier, là, et c'est marqué, elle le dit noir sur blanc. Enfin, vous voyez, dans quel...
Faut l'envoyer au journaliste.
Voilà, dans quel... Mais la journaliste elle-même était sur le cul, passez-moi l'expression, elle était sur le cul. Quoi. Voilà, quoi.
Oui, c'est ça a été fait, elle a pu constater qu'elle avait menti.
Alors après, si, moi je suis viré parce que j'ai, paraît-il, un langage trop fleuri aussi, et ça ne leur convient pas. Mais oui, mais moi, quand je dis ça, c'est des constats. Fleuri ou pas, c'est des constats, c'est comme ça. Voilà.
Bon. Donc il y a quand même, on sent qu'il y a une volonté au sein de l'INSEE, en tous les cas, comme d'ailleurs, hein, on est en train de le dire, de cadrer, on va dire, de cadrer très très précisément l'intervention, l'activité, la réflexion syndicale
Meilleur
sur
terme
vos
pour
entreprises.
Moi, c'est mise au pas, en fait. Ouais. Le terme de mise au pas me semble le plus approprié. Quoi, en fait. Voilà. Oui.
Carrément. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres exemples précis sur même le fonctionnement
Alors moi, je pourrais revenir sur le conflit retraite brièvement.
Ouais.
En fait, tout ça, c'est parti en vrille, hein, entre guillemets, à ce moment-là, hein, au printemps 2023, non ?
Oui,
c'est bien ça. Mmh. Oui, puisque c'est 2 ans, on disait. Mmh. Et là, déjà, on a eu des méthodes de la direction, et notamment de la secrétaire générale, si je m'embête de personnifier le truc, mais bon, qui était assez douteux, pour ne pas dire carrément moisi, quoi, je veux dire. Hein. Il y a notamment une interdiction de conférence de presse, hein, sous prétexte qu'on ne pouvait pas laisser rentrer un journaliste dans les murs. Or, il se trouve que dans d'autres directions de Bercy, comme aux impôts, ça se fait assez couramment. Hein, donc là aussi, il va falloir qu'on m'explique comment ça se fait, hein, voilà, qu'on nous explique. Hein. Et il y a eu aussi un piquet de grève, c'est pas le terme, hein, malheureusement, mais il y a eu un service qui s'est mis en grève, alors c'était le
service informatique
lié au recensement, et là ça a été traité, mais carrément par le mépris, quoi. Ils sont, il n'y a eu aucune
discussion.
C'est-à-dire que la chef du RH...
On avait des revendications locales. Enfin, ouais, on voulait qu'il y ait un bandeau sur le site du recensement disant que s'il y avait du retard... dans l'affichage de certaines informations, c'était en raison d'une grève. Voilà, parce qu'on avait le souci aussi de se dire, au-delà des journées d'action, d'essayer d'avoir des formes de grève qui perturbent vraiment ce que pouvait faire l'INSEE pour que ça pèse dans le rapport de force et que ça ait une visibilité.
Sinon, c'est plus une grève.
Et là-dessus, ils ont vraiment voulu... ils ont ignoré en fait les revendications de ces agents-là. Et il y a vraiment eu... il a fallu qu'il se passe beaucoup de temps avant qu'ils acceptent de mettre un petit bandeau sur le site disant qu'il y avait eu du retard à cause d'un mouvement de grève.
Et tout ça concernant, encore une fois, il faudrait faire la piqûre de rappel quand même, un projet de réforme contre lequel à l'époque se dressait 70% de l'opinion et plus de 90% des actifs. Ferme la parenthèse.
Non, carrément. S'en souvient très très bien.
Et donc ce qu'on dénonce aussi, il y a plein d'autres faits. Il y a notamment ce qui a déclenché aussi un boycott de tous les syndicats du dialogue social avec la direction. C'est le fait que un agent de l'INSEE, enfin pour le coup un encadrant intermédiaire, s'est fait agressé verbalement par la secrétaire générale à l'entrée de l'INSEE devant des dizaines d'agents, où elle lui a dit, sous prétexte que...
Elle lui a hurlé dessus,
tu es viré devant tout le monde. Donc elle lui a passé un savon, ce qui fait qu'il l'a évidemment très mal vécu et qu'il était en arrêt de travail suite à ça, en arrêt de travail jusqu'à sa retraite. Oui, voilà comment il a fini sa carrière, en étant arrêt de travail. Et la direction a refusé de reconnaître l'accident du travail, donc la responsabilité de la secrétaire générale dans l'état de ce collègue.
Elle est là pour ça.
Je voulais faire une parenthèse sur ce point, parce que vous voyez, là, on a affaire à quelqu'un qui est dans la boîte depuis plus de 40 ans et qui part à la retraite 6 mois plus tard. Et voilà comment ça se goupille en bout de course. Et alors, moi, je suis un peu dans le même cas, proportion gardée, parce que moi, je pourrais dire que j'ai 63 balais, que je suis dans la boîte, NSAE compris, depuis 42 ans, etc. etc. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et là, on peut même en sourire, c'est que ma suspension date de fin novembre, et la suspension, c'est 4 mois. Okay, et si vous faites fin novembre plus 4 mois, vous arrivez à fin mars. Et fin mars, là aussi, c'est un curieux hasard statistique.
C'est ta retraite ?
Eh bien, je suis à taux zéro pour la retraite. Pile poil fin mars, je suis à taux zéro pour la retraite. Curieux, comme ça. Voilà. Donc, on voit bien quels sont les messages qui sont distillés. Je veux dire, c'est en fait, casse-toi à la retraite, pour faire court. Tout le monde avait bien compris. Et dans le cas de cet autre agent, c'était encore pire, en fait. Parce que là, lui, en plus, il a vraiment trinqué. Il a dû se mettre sous bref.
Voilà. Mais c'est super, super dur. Ça démolit quasiment. Enfin, ça devrait pas, mais ça démolit une vie d'investissement dans une boîte, une histoire avec des collègues, et en quelques mois, ça t'anéantit, quoi.
Et en plus de ça, cet agent-là, il faut savoir qu'il travaillait, était assez directement sous les ordres de la secrétaire générale, puisqu'il travaillait des machins chouettes, des CVS trucs. Donc voilà, c'était ça, N+2. Donc là, vous voyez, on est vraiment... Quand je disais, en arrivant, elle a fait le ménage au sein du secrétariat général, c'est pas seulement en arrivant.
Mais elle est là pour ça, en fait. Voilà. Elle a été embauchée exactement pour ça.
En fait, le rôle de SG, sur ces coups-là, c'est un peu le ministre de l'Intérieur au sein de l'INSEE.
On est
place Beauvau, en fait.
On fait une mini-pause et après, on passe à ton cas précis,
J'en ai déjà
Olivier. T'en as déjà parlé, on va en reparler.
Señorita Manititita, deje de estarse pitando las uñas. Comuníqueme con el ingeniero Martínez y me trae otro café. Y me trae otro café.
Su presencia, su cara, su aliento, pesta caño y estiércol. indiferente cuando soy competente. Pero si la cago, de eso está pendiente. Siempre me minimiza y yo lo odio hasta cuando estoy en misa. Yo le sonrío, de sus chistes me río, pero quiero verlo ahogarse en el río. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Voy a tirar un tostador en su bañera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Voy a tirarle aceite en la escalera. No la regaña porque ella con la lengua le quita las lagañas. Explotador y mamón, así es de la empresa nuestro director. Me grita, me empuja, con despedirme siempre me asusta. Odio a mi jefe, odio a mi jefe. Cada que puedo le escupo en el café que le llevo. Odio a mi jefe.
Et on est toujours avec Bruno, Sylvain et Olivier de l'INSEE. Et là, on va parler plus précisément de ta mise à pied, enfin de toi, Olivier. Donc, sur quel motif, sur quel prétexte on t'a écarté ?
Alors, j'ai essayé de d'être assez compact quand même, parce que ouais. C'est tellement... par certains aspects, c'est tellement cocasse, c'est tellement grotesque. Je ne sais pas si ça vaut le coup de trop s'étaler là-dedans, en fait. Pour remettre ça un peu en contexte, l'atmosphère vis-à-vis des syndicats, et notamment de Sud-INSEE, ça se détériore notamment à partir du printemps 2023, comme on disait tout à l'heure, un moment des retraites. Là. Et moi, je savais très bien que j'étais dans le viseur. Okay, je le savais très bien, j'ai eu à faire même une ou deux altercations avec la secrétaire générale à ce moment-là, dont elle se souvient très bien, je pense. Et du coup, moi j'étais sur une mission d'un an au sein de la comptabilité nationale. En toute logique, ça devait être reconduit, parce que j'avais investi un an sur un domaine que je ne connaissais pas, donc il me semble quand même, c'est une, comment dire, une montée en compétences qui coûte à tout le monde en plus, hein, aussi, pas seulement à moi, aussi à l'Institut quelque part. Hein, et finalement, ben, j'apprends fin juin, comme de juste à la clôture du conflit retraite, que cette mission n'est pas prolongée, voilà, et pas renouvelée. Bon. Je ne percute pas forcément tout de suite. On me dit, oui, on va t'envoyer une autre mission. Ok, ça c'est la RH, hein. Je ne vais pas donner de nom. Et puis les jours passent, les semaines passent et rien ne vient. Quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui vient, voilà. Pas d'autre mission. Donc en fait, ça porte un nom, hein. C'est comme tout le monde sait, ça s'appelle placardisation. Et puis en plus, même au sens physique du terme, on a trimballé deux ou trois fois de bureau en bureau jusqu'à ce que j'atterrisse à un bureau en face de l'imprimerie, près de la porte de sortie. Enfin bon, le message était tellement clair que c'en était caricatural. Quoi. Je veux dire, c'était presque à mourir de rire. En fait, hein, voilà. Bref. Voilà. Hein. J'insiste sur le fait que quand mon avocat, parce qu'il a fallu que je prenne un avocat pour leur fameux CAP, a détaillé tout ça, la direction n'a rien répondu, n'a rien dit, n'a rien. Parce qu'ils sont en faute. C'est une obligation, normalement, pour eux de donner du travail aux agents. Okay. Donc c'est d'abord eux qui sont en faute. Okay. Et ils le savent très bien, y compris la secrétaire générale. Et là-dessus arrive une campagne de mutation, parce que chez nous, chaque année, il y a une campagne de mutation. Alors, c'est la grande partie de chaise musicale, on va dire ça comme ça, ok. Et moi, on était déjà à 5 ou 6 mois de placard, hein, placardisation. Je commence à l'avoir mauvaise et du coup, je joue cette campagne, mais je la joue un peu à contresens, hein, sciemment, pour faire passer le message. Comme quoi, je comprends parfaitement ce qui se passe, etc., etc. D'accord ? En utilisant ce qu'ils appellent une lettre de motivation comme lettre d'information et plutôt de démotivation, en l'occurrence. Hein, parce qu'ils font tout pour démotiver les gens, en réalité. Hein, surtout à partir d'un certain âge, même si ça, c'est pas propre à l'INSEE. Ça, c'est un peu partout pareil. Hein, du moins, quand vous n'avez pas fait carrière dans le management, comme ils disent. Donc, là-dessus, fin novembre arrive... le truc de suspension, là, je sais plus comment ils appellent ça, enfin peu importe, la suspension pour 4 mois, comme je disais tout à l'heure, curieusement à 4 mois de ma retraite à taux zéro, alors sachant que si j'ai envie de bosser jusqu'à 67 ans, c'est mon droit plus strict, hein, je pense que la secrétaire générale aussi le sait, enfin j'espère. Et alors, les motifs invoqués. Alors, vous savez, c'est toujours pareil. Quand vous avez quelqu'un dans le viseur et qu'il faut vraiment faire en sorte que soit il lâche l'affaire, soit il parte à la retraite, eh ben, on en trouve toujours des motifs. Ça s'appelle même des prétextes, en fait. Hein. Mmh. Donc, il se trouve que moi, en hiver, notamment, je roule en vélo et donc je suis accoutré avec un sweat, souvent avec un sweat à capuche noire et aussi un banda qui, bizarrement, parfois est aussi de couleur noire. Et on a chez nous un annuaire interne, purement interne, hein, ça ne sort pas de la boîte, où chacun peut mettre une photo de sa bobine ou ne pas en mettre. Et alors, il se trouve que depuis des années, c'est totalement folklorique ce truc. Hein, c'est-à-dire chacun met absolument ce qu'il veut. Il y en a qui, mais, mon avocat m'a même demandé de faire une compilation des trucs, tellement c'est cocasse. La direction ne s'est jamais penchée là-dessus. Elle s'en fiche complètement. Et comme de juste là, l'agence indiquée donc de 63 ans à 4 mois de la retraite et qui casse un peu trop les pieds par moment, eh ben, comme de juste, ça les dérange, l'image en question. Alors, histoire de faire rigoler tout le monde, je peux le dire, dans l'acte de suspension, il y a des mots-clés. Hein, les mots-clés, c'est « extrémiste ». Hein, vous voyez,
ouais,
je pense que tout le monde a déjà compris où on veut en venir. Il y a les mots-clés du genre violence, incitation à la violence, individu violent. Enfin, ouais, ça, c'est ce qu'on a.
Donc, ça, c'est à partir d'une photo, voilà. Quoi.
Oui, et pas tout à fait seulement. J'y viendrai brièvement par la suite. Oui, oui. Voilà, alors ça, c'est un truc. Et le deuxième truc qui est évoqué à l'époque, au moment de la suspension, c'est le fait. Comment il disait ça ? Alors, c'était même pas. En fait, c'était le seul grief noir sur blanc. Mmh. Oui.
Donc, la photo.
Voilà, oui, à l'époque. Après, ils ont 4 mois pour recharger la barque.
Faire l'enquête.
Bah oui, mais faire l'enquête, c'est une sorte de mise en examen, en fait, quelque part. Mmh. Et en fait, c'est ce qu'ils ont fait. Et en plus, ils l'ont fait de façon irrégulière, selon mon avocat, parce qu'ils l'ont fait en deux temps. Alors que. Ils ont commencé par produire un premier document ce qu'on reproche, ça porte un nom, là, les griefs d'inculpation, oui. Enfin les chefs d'inculpation, appelons ça comme ça, mais je fais un parallèle avec le pénal. Hein. Et parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent pareil, c'est ça qui est intéressant aussi. Mmh. Ça, pour moi, c'est très intéressant, en fait, même. Hein. Et comme ça ne suffisait pas, parce qu'ils devaient voir que c'était un peu faiblard, quand même, hein, un peu pour ne pas dire inconsistant, et ben ils ont rajouté des trucs dans un deuxième wagon 6 ou 7 semaines plus tard, ce qui d'ailleurs, selon mon... En plus, c'est même pas régulier, apparemment. Hein. Mmh. Enfin, bref, je ferme la parenthèse. Ce que je vois arriver, donc, 2-3 mois plus tard, en vue de la CAP, donc c'est le grand jugement, enfin, c'est ce que j'appelle une farce, puisque de toute façon, l'avis des OS est purement consultative, et de toute façon, cette secrétaire générale n'en fait qu'à sa tête, hein, donc on voit bien que c'est juste une farce, en fait, le truc. Hein. Mais c'est quand même intéressant de voir les 4 OS voter contre, parce que quelque part, c'est déjà une première petite gifle, et le tribunal administratif, dans la foulée, on peut penser qu'il en tiendra compte de ça aussi, de ça. Et donc, du coup, il y a des trucs qui se greffent là-dessus. Alors, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un an, il y avait une tribune qui était parue dans Libération et sur le site de la LDH concernant le recensement de la population, donc des travaux de l'INSEE, où ils voulaient mettre, et ils sont en train de mettre, en fait, une nouvelle question. Alors, la question prêtait un peu à discussion, pour ne pas dire à plus, en fait, à inquiétude, voire à lancement d'alerte, en tout cas de la part de la CGT, de la part de certaines personnes, comme la LDH, hein, en l'occurrence, c'était Baudouin, en fait, qui était avec Binet pour rédiger cette tribune. Je ferme la parenthèse. On peut être d'accord ou
c'était
pas.
C'était quoi cette question ?
En fait, c'était une question qui demandait à la personne enquêtée si ses parents étaient nés à l'étranger.
Ok.
Voilà. Vous voyez le genre de truc. Hein. Mmh. Bon. Alors après, on peut être d'accord, s'inquiéter plus ou moins. Moi, j'avoue, peu importe mon avis, quoi. En fait, hein, voilà. Ils ont trouvé dans une cafétéria au rayon SG, au niveau du secrétaire général, en plus chez eux, hein, vraiment sur leur herbe, une copie de cette tribune. Mmh. Et donc, c'est un crime de lèse-majesté.
Ah bah carrément.
Bien sûr,
la
LDH, en plus, qui était dans le viseur par Darmanin, c'est absolument intolérable de voir un truc pareil, en plus, avec ces sales gauchias de la CGT, en plus, par-dessus. Donc, vous pensez bien que voilà, quoi. Et donc, du coup, se greffe là-dessus tout un procès en sorcellerie, hein, et en essayant, sans arrêt, en plus, dans leur réquisitoire, de faire une sorte de confusion... très insidieuse, très sournoise, entre la notion de copie d'une tribune de presse et un tract. Or, ce n'est pas du tout un trac, le truc. C'est, donc, vous voyez le genre de procédé, en fait. Hein. Voilà. Et alors, tout ça, pour l'anecdote, à l'issue de la CAP, la secrétaire générale, donc elle m'a cassé les pieds, pour ne pas dire plus, pendant 4 mois avec cette tribune LDH-CGET. Et le résultat des cours, c'est qu'en plus de ça, elle lâche l'affaire à l'issue de la CAP. On ne comprend même pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça.
Ah, non, mais il y a un combat psychologique à mener.
Vous savez, c'est comme, vous avez, comme quand vous avez affaire aux forces de police dans une manif. Si vous commencez à comprendre la logique, vous n'êtes pas sorti de l'auvergne.
Ah bah, en général, ça se termine même pas très, très bien.
Bref, qu'est-ce qu'il y avait comme truc, moi-même, j'étais tellement cocasse que je me souviens.
Dans l'arrêté de suspension
Dans la CAP, il y avait encore d'autres bricoles. Ah oui, ils me reprochaient mes échanges avec la direction. C'est-à-dire qu'il y a un front office chez nous qui s'appelle Sésame, qui en fait c'est le porte-voix de la direction, il faut être clair vis-à-vis des agents. Hein, pour les messages à caractère généraliste, ils envoient ça carrément à tous les agents. Et des fois, on peut trouver ça un peu sujet à caution, un peu borderline pour certains trucs. Et il se trouve qu'une fois ou deux, moi, je ne me suis pas privé de
donner ton point de vue.
De répondre et de dire ce que j'en pensais. Et moi, je pars du principe qu'il y a un truc qui s'appelle droit de réponse. Et quand je reçois un mail perso, directement, j'ai le droit de répondre à l'expéditeur. C'est aussi simple que ça, mais visiblement, ça ne convient pas ni à la direction de l'INSEE, ni au service Sésame, en l'occurrence, qui s'appelle comme ça, et encore moins, bien entendu, à la personne que vous savez. Voilà. Et donc, il me reproche mon langage parfois un peu fleuri, enfin des choses comme ça, hein, alors qu'en fait, il n'y a jamais eu d'insulte, il n'y a jamais eu d'injure. Voilà. Je ne remets pas en cause les agents en tant que personnes. Je remets, bien entendu, dans ce que je peux dire à ce moment-là, en cause certaines méthodes et certains angles de vue donnés par cette direction de l'INSEE. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Hein. Là, je pense avoir fait le tour.
Du coup, t'en es où là?
Alors là, la CAP, donc le grand jugement, la grande messe, la grande farce en fait. Hein, c'est même pas, voilà. Puis, de toute façon, c'est écrit d'avance. Ça, en tout cas, c'est mon avis, même si on n'est pas forcément tous d'accord au sein de Sud-INSEE là-dessus. Enfin bon, voilà quoi. Alors pour se donner des airs de bon samaritain. Cette secrétaire générale, dont je n'ai toujours pas le nom, sachant. On pourrait aussi évoquer très brièvement son CV en matière d'élection législative. Hein, bref, parce que ça aussi, c'est très à l'image du personnage. J'essaierai d'y venir quand même parce que c'est tellement croustillant.
Mais fais gaffe parce que tu n'as plus que 3 minutes. Hein. En fait, hein. Donc 3 minutes, là, il faut conclure.
En fait, pour jouer les bons samaritains, elle est passée de 6 mois ferme. Hein, on dit comme ça, comme pour aller en taule, en fait. Hein,
d'exclusion.
Dans la boîte maintenant, mais oui, bien sûr. 6 mois ferme, 6 mois, dont 3 avec sursis. Ça aussi, j'aime beaucoup l'expression. C'est truculent, on va dire.
T'as pas intérêt de refaire une connerie. Ouais, hein, sinon, ça tombe. Hein.
Ouais, sinon, pampan cucu, voilà, d'accord. Voilà, c'est tout. Bon, moi, je suis plutôt dans ce genre de. J'aime bien un peu lire. Au-delà d'un certain stade que je qualifie de bêtise, hein, pour moi, il y avait plus guère que la satire et l'ironie. Hein. C'est aussi simple que ça. Alors, les 4 OS ont voté contre. Et résultat des courses, c'est que moi, j'ai déjà reçu le recommandé. Hein, là, hein. Alors, je ne vais pas le chercher tout de suite. J'ai de bonnes raisons pour ne pas y aller tout de suite. Mais le papillon, je l'ai là. Il est là. Hein. Et s'il y a un papillon comme ça, ce n'est pas gratuit. Hein. C'est que voilà. Hein. Donc, il faut arrêter de dire que Montel, il est juste suspendu. C'est encore à Toulouse qui disait ça. Non, Montel, voilà. Hein.
Sylvain, est-ce que tu peux un peu conclure
Peut-être conclure sur une note...
Tout ce qui est soutien...
Positif, c'est-à-dire que moi je pense que le côté positif, c'est que on a mobilisé les agents sur le cas d'Olivier, mais pour poser le contexte plus général.
On a fait
une assemblée générale avec une 60aine d'agents, on a fait une action au sein de l'INSEE avec une 30aine d'agents pour bien montrer à la direction qu'on leur demandait de
ne pas prendre la... Oui, puis qu'il n'était pas tout seul et que vous avez conscience de l'ambiance qui commençait, enfin qui...
Donc c'est pas évident parce qu'il y a un peu la peur qui commence à s'instaurer.
C'est fait pour ça.
Donc on a sorti aussi l'affaire à l'extérieur, donc on a un premier article de l'Humanité, on espère qu'il y aura d'autres choses qui commencent à sortir, et là la direction de l'INSEE commence à prendre les choses peut-être en considération, puisque là, on a un rendez-vous qui est fixé avec le directeur général de l'INSEE, qui accepte, qui avait refusé de nous recevoir jusqu'à présent, mais là, qui considère que, il accepte de nous recevoir.
C'est pile poil maintenant qu'il accepte de recevoir.
Voilà, et nous aussi, on a estimé qu'il fallait agir, parce qu'il y a aussi un risque que ça aggrave, d'autant plus que... la secrétaire générale de l'INSEE est candidate au poste de directrice générale de l'INSEE. Donc nous, voilà, voilà, il faut, il est temps de construire une mobilisation sur le cas d'Olivier, mais plus généralement, et pas seulement sur le cas d'Olivier.
Moi, je suis presque à la retraite. Hein. Voilà. Moi, c'est...
Non, c'est l'ambiance qu'il y a, là.
L'ambiance qu'il faut...
Je pense à ceux qui suivent derrière.
Il
ne
faut pas baisser la tête. Il y a un moment, il faut leur montrer qu'on ne va pas subir de plus en plus et qu'on va essayer de construire un rapport de force pour que ça change.
Non, mais ce qui était important de vous recevoir aujourd'hui, c'est vraiment de montrer à quel point cette offensive de la part du patronat, mais aussi de l'État, qui est une sorte de patron aussi, essaye de mettre au pas les syndicats et quelles méthodes ils utilisent dans les différentes boîtes, quoi. Mais c'est vraiment un contexte relativement général.
Oui, j'ai juste une parenthèse à faire très brièvement dans le réquisitoire. La crème de la crème, c'est quand cette direction raconte que, pour en dire noir sur blanc, je cite, que je vais aux manifestations violentes parce que ce sont des manifestations violentes. D'accord ? Tout ça parce que j'avais un suite.
D'ailleurs, je note que tu l'as aujourd'hui.
Attention à vous. Ça rigole pas avec moi. Attention. Et en fait, je précise que j'ai 63 ans, que j'ai 35 cm de ferraille dans la colonne vertébrale, plus une prothèse de hanche. Mais défense de rire, surtout défense de rire.
En tous les cas, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui dans l'actualité des luttes pour nous raconter tout ça. Vous êtes évidemment les bienvenus pour des prochaines émissions. Si vous le souhaitez et le considérez ça nécessaire.
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur. Mais d'être très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur 1 sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.